Avec Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Les questions se bousculent autour de l'alimentation des tout-petits. Bonne prise de poids, croissance, besoins essentiels assurés pour éviter les carences. Bien nourrir son bébé, c'est une préoccupation de tous les jours au cours des premières années de la vie, alors qu'autour de soi se font entendre des conseils pas toujours cohérents. Des opinions tranchées, des versions différentes pour expliquer ce qu'il est bon ou mauvais de proposer dans les biberons ou les petites assiettes des bébés. Sucre, matière grasse, sel, vitamines, lait maternel ou lait artificiel. Préparation maison ou toute faite, quand proposer de nouveaux aliments et dans quelle quantité? Est-ce qu'il existe des moyens pour limiter la survenue des allergies? Et à partir de quand l'enfant peut-il manger comme le reste de la famille? Pas toujours facile de s'y retrouver, surtout lorsque l'on débute en tant que parent et que sur internet ou en discutant, on peut entendre de la bouche d'une amie, d'une tante, d'une voisine, à peu près tout et son contraire. Sans parler des modes et des injonctions qui imposent des modèles et font planer sur chacune des étapes de l'éducation et de l'élevage l'ombre de la culpabilité. Alors bon sens, bon produit, bon conseil pour un bébé en pleine forme, ce sera notre recette du jour dans Priorité Santé. Et des parents en quête de conseils pratiques, vos questions au 33 84 22 75 75. Pour y répondre, avec nous en studio, le professeur Patrick Tounian. Bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Vous êtes pédiatre, chef du service de nutrition de l'hôpital Trousseau à Paris, l'auteur de « Réponses à toutes les questions que vous vous posez sur l'alimentation de votre enfant », publié aux éditions Odile Jacob. Tout à l'heure, on va rejoindre en République centrafricaine le professeur Jean Chrysostome Gaudy, directeur pédiatre au complexe pédiatrique de Bangui. Avec lui, nous parlerons nutrition d'urgence, mais aussi de l'alimentation des bébés bien portants. En fin d'émission, on va retrouver notre bulletin de santé, les faits marquants de l'actualité dans le domaine sanitaire. À la une cette semaine, l'épidémie de fièvre Ebola dans le nord Kivu en RDC qui touche les villes de Beni et maintenant de Boutembo. En Algérie, les autorités affirment que l'épidémie de choléra est maîtrisée. Et en France, le plan hôpital annoncé pour le 18 septembre prochain.
Priorité santé sur RFI.
Toutes les questions sur l'alimentation de votre enfant. Professeur Patrick Tounian, comment faisaient les parents avant que l'on ne publie des livres ou qu'on fasse des émissions au sujet de l'alimentation des enfants? Comment ils faisaient pour bien nourrir leur bébé?
Ah, ça c'est une question qui me plaît beaucoup, parce qu'ils avaient du bon sens. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, et vous l'avez magnifiquement dit dans votre introduction, on a perdu le bon sens, on a peur. Avant, on nourrissait son enfant parce qu'on était content qu'il grossisse, qu'il mange bien, et on arrivait à trouver les bonnes solutions. Aujourd'hui, on a tellement peur qu'on fait davantage de bêtises. C'est très paradoxal. Donc, retrouvons le bon sens, et ce qu'on a un peu perdu aussi, le sens du bon, c'est-à-dire de donner du plaisir à son enfant quand il mange, et non pas craindre pour son avenir, comme on l'entend malheureusement trop souvent.
Mais de quoi ont peur ces jeunes parents quand ils disent « est-ce qu'il faut que je lui donne ci, ça, est-ce qu'il faut que je l'allaite ?» Tous ces on-dit, pourquoi font-ils si peur? Pourquoi ils ont autant de prises?
Parce qu'on entend beaucoup de choses à la télé et à la radio, on fait peur aux gens, on parle beaucoup des pesticides ou plus récemment des bactéries dans les laits. Et tout ça dans la tête des gens se remue.
Même s'il y a un fond de réalité, mais pas forcément dans une telle mesure, c'est ce que vous nous dites?
Absolument. Bien sûr qu'il y a toujours un fond de réalité, mais comme c'est dit extrêmement rapidement, aujourd'hui, moi ça fait 30 ans que je fais ce métier et j'ai vu la progression. Aujourd'hui, les parents ont beaucoup plus peur qu'avant, où ils avaient encore une fois du bon sens. Et ce bon sens leur permettrait finalement de bien nourrir leur enfant.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, le médecin, il soigne, mais aussi il rassure. Et puis, il est là pour montrer le chemin, finalement, pour se réapproprier cette fonction de parent, on va dire la mère nourricière, on va dire le père nourricier, parce qu'on ne fait pas la différence. Mais en tout cas, il y a aussi cette fonction, justement, de rassurer pour le docteur, pour le professeur.
Absolument, il faut à la fois rassurer. Il y a des règles. c'est pas l'anarchie totale. Il y a des règles, il faut les donner aux parents, elles sont simples, et ensuite, faut laisser une certaine liberté selon la culture, selon la religion, selon les goûts simplement de la famille, pour que les parents fassent un peu comme ils le sentent.
Alors, il y a quand même des bons conseils, il y a des choses à ne pas faire hein, quand on donne à manger à son bébé. Justement, pourquoi cette période de la petite enfance, elle est cruciale pour le développement de l'individu, donc ça passe par l'alimentation?
Alors tout à fait, cette période, et notamment la période du développement cérébral, c'est là où on peut acquérir un déficit cognitif, c'est-à-dire être un peu moins intelligent ou pas. Et les carences, et essentiellement les carences au cours des premiers mois de vie, peuvent avoir des conséquences tout au long de l'existence.
Et ça peut commencer avant même la naissance, pendant
absolument.
La vie fœtale. Donc la santé absolument. De la maman qui est enceinte est très importante. Son alimentation aussi?
Absolument. Les carences durant la vie fœtale ont les mêmes conséquences à long terme, encore une fois, tout le long de l'existence. Donc, pendant la grossesse, mais la nature est très bien faite. Lorsque la maman est carencée, pendant qu'elle est enceinte, son enfant va bénéficier quand même des nutriments dont il a besoin, au détriment de la maman. C'est-à-dire que c'est la maman qui va se carencer.
Il prend
mais
ses
son
réserves.
Bébé, voilà, mais son bébé va prendre ce dont il a besoin. Alors qu'après, bien sûr, la naissance, ça dépend exclusivement de l'alimentation qu'on lui donne.
Alors justement, la première alimentation, tout le monde le sait, c'est le lait. Professeur Patrick Tougnon, quelle différence, hein, pour remettre les choses en place, entre la composition du lait maternel et du lait artificiel?
Le lait maternel n'arrivera jamais à être égalé par tous les industriels. Jamais. On s'en approche, bien évidemment, mais le lait maternel doit être privilégié dans tous les cas. Maintenant, je ne veux pas culpabiliser les mamans qui ne souhaitent pas, qui ne peuvent pas, ou qui n'ont simplement pas envie d'allaiter. Et là, aujourd'hui, les laits infantiles offrent quand même une certaine sécurité. Mais, encore une fois, jamais ils n'égaleront le lait de mère.
Et pourquoi est-ce qu'il faut changer de lait, professeur Tougnon, changer de lait lorsque le bébé grandit?
Les premiers deuxième âge que on connaît tous, initialement le lait deuxième âge, il a simplement été inventé pour que les industriels continuent à vendre leur lait parce que les mamans arrêtaient à 6 mois. Ceci dit, ils ont quand même réfléchi et les laits deuxième âge sont plus riches dans les principaux nutriments que les laits premier âge. Tout simplement parce que proportionnellement l'enfant en boit moins puisqu'il mange quelque chose à côté. Et comme le lait doit rester la principale source alimentaire chez l'enfant, c'est ce lait, deuxième âge, donc, va permettre à l'enfant d'assurer tous ses besoins, ou presque, à condition qu'il en consomme suffisamment, c'est-à-dire 700 millilitres par jour ou 3 biberons par jour.
Alors, tout à l'heure, vous disiez, rien ne supplante le lait maternel. Pourtant, il faut apporter quand même des compléments lorsque l'on allaite au sein son bébé. Professeur Tougnon, pourquoi, justement, il y a besoin, même si ce lait maternel est extraordinaire d'un point de vue nutritif, pourquoi ces compléments sont nécessaires?
Ah, ça aussi, c'est une excellente question, parce qu'on se dit, depuis la nuit des temps, l'être humain a été allaité. Pourquoi a-t-il besoin? Il y a une supplémentation systématique qui est la vitamine D. La vitamine D qui permet de mieux absorber le calcium qu'on ingère. Tout simplement parce que pour l'instant, l'être humain n'a pas encore été habitué à vivre habillé. Alors, parmi tous nos amis d'Afrique qui nous écoutent, l'Afrique a beaucoup plus de soleil que la France et eux en ont moins besoin. Néanmoins, on sait que ce serait mieux de donner de la vitamine D aux enfants africains quand ils sont allaités. La deuxième supplémentation peut-être plus importante, après l'âge de 6 mois, il n'y a pas assez de fer dans le lait de mère. Et donc tous les enfants allaités au-delà de 6 mois doivent avoir une supplémentation en fer, sauf s'ils sont capables, mais ce qui est assez compliqué, de manger de grandes quantités de viande après l'âge de 6 mois.
Alors on va donner dans quelques instants la parole à nos auditrices, à nos auditeurs. Juste avant, est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous avez constaté, vous disiez 30 ans d'exercice hein, dans ce domaine de la pédiatrie et de la nutrition, est-ce que vous avez observé que en quelques années en matière d'alimentation, ce qui était vrai ne l'est plus tout à fait, professeur Tougnon, peut-être c'est ce qu'on entend, on va dire, dans la rue, en famille, est-ce que c'est vrai aussi dans le domaine de la médecine?
Il faut être très humble quand on fait de la médecine parce que les choses changent et notamment en nutrition parce qu'elles changent encore plus vite parce que tout le monde en parle. Le meilleur exemple, ça reste l'âge de la diversification. l'âge de la diversification, jusque dans les années 2000, on a dit qu'il fallait le reculer le plus longtemps possible pour s'apercevoir, à partir de la fin des années 2000, que c'était une erreur et qu'il fallait au contraire le rapprocher. C'est le principal exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être très humble, il faut savoir changer d'avis, et c'est ce que nous faisons tous. Et puis surtout, se rappeler que c'est pas dramatique. Les enfants qui ont été diversifiés à 8 mois, alors qu'aujourd'hui on recommande 4-6 mois, c'est pas mortel, ils ont peut-être eu un peu plus d'allergies. Mais ce qui compte avant tout, et ça n'a pas changé, c'est d'éviter les carences.
Alors, comme promis, on va tout de suite donner la parole, professeur Tounian, aux pères et aux mères qui nous écoutent. C'est une maman d'abord qui est en ligne de Douala du Cameroun, c'est Emmanuela. Bonjour Emmanuela.
Bonjour Caroline.
On vous Bonjour écoute, madame. Le professeur Tounian vous écoute.
Bonjour professeur.
Bonjour madame.
Mon souci c'est que j'ai une fille de 6 mois. Elle mange beaucoup et elle ne prend uniquement que son lait et de la phosphatine. Donc du coup je suis obligée de dépasser les doses prescrites. Et elle refuse catégoriquement compote de fruits et compote de légumes. Même les fêtes maison, elle refuse. Donc, je voudrais savoir si c'est bon de dépasser les doses prescrites. Et je voudrais aussi savoir comment faire pour diversifier son alimentation.
Professeur Patrick Tounian, peut-être déjà pour commencer, expliquer ce que c'est la phosphatine pour celles et ceux qui ne sont pas habitués avec ce produit. C'est quelque chose qu'on met dans le lait pour épaissir, pour, on va dire, caler le bébé, c'est ça?
Voilà, ce sont des céréales qu'on ajoute au lait pour en augmenter la densité énergétique. C'est-à-dire que pour un même volume bu, il y a un peu plus de calories. Alors, je voudrais vous rassurer, Emmanuela. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais jusqu'à un an, et votre fille a 6 mois, la quasi-totalité de ce dont elle a besoin provient du lait. Donc, si vous m'aviez dit « mon enfant ne boit plus de lait, il mange plus que des fruits et légumes », j'aurais dit « c'est dramatique ». Vous me dites l'inverse, et donc c'est très bien. Donc, bien sûr qu'il faut dépasser les quantités prescrites, vous la laissez boire ce qu'elle souhaite. Vous ne la limitez pas. Ça, c'est pour votre première question. Votre deuxième question, c'est comment faire pour la diversifier, parce qu'il faut quand même la diversifier. Eh bien, ajoutez un petit peu de purée de légumes et de fruits dans le biberon. Ça va l'habituer au goût et proposez-lui régulièrement des compotes, des purées de légumes à la cuillère sans la forcer. Et vous verrez, à force de lui proposer, ça lui plaira et elle en consommera. Mais encore une fois, je le répète, pour son état de santé, ce qui compte, c'est qu'elle continue à boire suffisamment de lait avec de la phosphatine. Mais pour le reste, c'est juste, j'allais dire, pour l'amuser.
Voilà, Emmanuela, de quoi vous rassurer, hein? Tout va bien.
Okay.
Voilà. Voilà. Très bonne journée pour vous au Cameroun, à Douala. On va prendre en ligne Karine. Karine qui est en République démocratique du Congo à Kinshasa. Bonjour Karine.
Bonjour Caroline.
Le professeur Tounian vous écoute.
Bonjour professeur.
Bonjour madame.
J'ai 2 garçons de 8 mois. J'ai ajouté à leur alimentation les céréales à 3 mois. Tout se passait bien. Et maintenant, ils ont 8 mois, ils n'arrivent pas à faire leur nuit. Je les donne les céréales 2 fois par jour. Le matin, c'est 50 grammes et le soir, c'est 35 grammes. Mais ils se réveillent plusieurs fois pour allaiter parce qu'ils ont faim. Je voulais savoir si à quelle quantité je peux donner les céréales pour qu'ils dorment suffisamment.
Alors, vous avez parlé d'allaiter. Vous leur donnez le sein ou vous leur donnez des biberons?
Les seins.
Aux deux?
Oui, ce sont des jumeaux.
Mmh. Mais alors, les céréales, vous les mettez dans quoi?
Non, je fais la bouillie.
D'accord, vous lui faites la bouillie. Écoutez, s'ils se réveillent parce qu'ils ont faim, ça va être simple, hein, vous leur donnez davantage de céréales. Comme je l'ai dit à Emmanuela, il n'y a pas de limite. C'est eux qui vont décider de ce dont ils doivent manger. C'est-à-dire que s'ils mangent plus, peu importe, vous les laissez manger. Je l'ai dit aussi, mais je le répète, ils ont tous les deux 8 mois et votre lait, comme tous les laits de mère, ne contient pas assez de fer. Donc c'est très important de les supplémenter, d'aller voir votre pédiatre pour qu'il les supplémente tous les deux en fer. Donc leur donner des petits médicaments
C'est sous forme de gouttes hein, qu'on met dans la...
Alors, sous forme de poudre, de sirop aussi, parfois.
Qu'on va pouvoir mettre dans, éventuellement dans la bouillie. C'est possible de mélanger ou faut les donner
tout
à part?
Tout à fait. C'est possible de le mélanger ou c'est possible de le donner directement dans la bouche. C'est souvent des produits qui sont appréciés des enfants. Donc, pour résumer, continuez à l'allaiter, à les allaiter comme vous le souhaitez, mais donnez-leur la quantité de céréales, de bouillie qu'ils souhaitent et donnez-leur des suppléments en fer.
Donc, Karine, il faut caler ces bébés pour qu'ils dorment bien la nuit parce que visiblement, ils ont peut-être un petit peu faim. C'est pour ça qu'ils vous réveillent. Voilà ce que vous a dit le professeur Patrick Tounian. On vous souhaite une excellente journée à Kinshasa. On va partir pas très loin d'ici, en région parisienne, à Garches, d'où nous appelle Yolène. Bonjour Yolène.
Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
On vous écoute Yolène. On vous écoute Yolène.
Voilà, j'ai un petit bébé qui est né avec 5 jours de retard, 3,980 kg, et il va avoir 3 mois le 18 septembre. Je l'allaite exclusivement à la demande, et lors de la dernière pesée à la PMI, j'ai 7,470 kg. Il rentre en crèche à partir du 8 octobre, la période d'adaptation commence, et en fait... La PMI et le pédiatre des crèches me disent qu'il faut limiter le nombre de TT pour déjà parce qu'il a complètement dépassé la courbe de poids et deuxièmement parce que à la crèche ils vont juste lui donner un biberon à 11h et un biberon à 15h et qu'ils me disent qu'il va être très frustré, très malheureux. Le problème, c'est que je me demande si de le frustrer maintenant, je ne sais pas trop si c'est opportun. Et entre ce que dit la Leche League et ce que dit le pédiatre, en fait, c'est le jour et la nuit. Donc, je ne sais pas trop quoi faire.
Professeur Patrick Tounian, la question du sevrage. Hein, parfois, c'est vraiment une crise de conscience pour les mamans parce qu'il y a arrêté l'allaitement, la séparation du bébé, ça fait beaucoup de choses.
Et la reprise du travail.
Oui.
Alors, déjà pour l'allaitement, si j'ai bien compris, votre pédiatre souhaite que vous réduisiez les quantités administrées parce que votre bébé grossit trop, c'est ça ?
Ben oui, il y a ça et je voulais dire aussi qu'à la crèche, il continuera à boire mon lait hein, parce que je...
D'accord, vous allez le tirer.
Je le tire, ouais.
D'accord.
Et ça se passe très bien.
Alors, vous rassurerez votre pédiatre et je vous rassure de la même façon. Il n'y a aucun risque à ce qu'il grossisse trop. On le laisse tranquillement grossir. C'est pas pour ça qu'il deviendra obèse. Donc, vous le laissez boire la quantité qu'il souhaite. Deuxièmement, quand on entre en crèche, c'est vrai que pour des raisons pratiques, c'est pas simple de donner le sein à la demande. Maintenant, si vous avez assez de lait et que vous tirez votre lait, je pense qu'il ne faut rien changer. Maintenant, c'est juste un confort pour vous et pour la crèche. Si c'est sûr que s'il demande 7 fois par jour, ça va pas être simple pour tout le monde. Donc, vous pouvez progressivement réduire le nombre de tétés, non pas pour qu'ils grossissent moins, mais tout simplement pour des raisons pratiques. Mais continuez à allaiter la durée que vous souhaitez. Et n'oubliez pas, je viens de le dire, après 6 mois, on rajoute du fer.
Professeur Tounian, si Yolène tire son lait et qu'elle donne donc une certaine quantité, puisqu'elle le voit sur le biberon dans lequel elle a transféré ce lait maternel, elle a donc la certitude que son bébé a mangé suffisamment. Ça aussi, peut-être, ça peut la rassurer pour espacer cet été. Parce qu'une mère qui allait, des fois, elle n'a jamais conscience de savoir est-ce que mon bébé a assez mangé. C'est une question qui peut revenir aussi. Combien de temps pour rassasier ce bébé?
Alors, c'est une question qui revient effectivement assez souvent. Les bébés se rassasient d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils boivent et quand ils n'ont plus faim, ils arrêtent de boire. Et on ne peut pas les forcer à boire davantage. Donc, ils vont eux-mêmes se réguler et avec l'âge, votre bébé n'a que 3 mois, avec l'âge, ils vont pouvoir boire davantage et donc tenir davantage jusqu'à la tétée suivante et donc se réguler tout seul. C'est vrai que savoir la quantité qu'on donne, ça peut rassurer, mais laissez votre bébé faire, il va savoir parfaitement se réguler tout seul. Mais de façon générale, quand on allaite son bébé, donc quand on donne le sein, les prises alimentaires, donc les tétées, sont plus nombreuses que lorsqu'on leur donne le biberon. Mais le lait maternel étant tellement bon pour votre bébé que ça vaut la peine de se fatiguer.
Voilà, Yolène, ce conseil, ces conseils du professeur Patrick Tounian. Très bonne journée à Garches et bon courage pour votre reprise du travail. On va maintenant partir pour le Mali, pour Bamako, où l'on retrouve Alous. Bonjour, Alous.
Bonjour, madame.
Un papa à l'écoute et qui est là pour nous poser une question. On vous écoute.
Alors, moi, c'est par rapport à mon bébé qui aura bientôt 11 mois. Mm-hmm. Alors, bon, sa maman, naturellement, va au travail la journée. Et donc, toute la journée, il ne tète pas, il s'alimente différemment. Alors, c'est la nuit que ça pose problème, parce que la nuit, il ne veut rien prendre du tout. Il veut juste le sein. Et il passe pratiquement la nuit à téter. Et donc, c'est ça le problème. La maman n'arrive pas du tout à dormir parce que le bébé, il tète toute la nuit.
Professeur Patrick Tounian, ce bébé qui a très envie de voir sa maman qui est allée au travail la journée, hein, elle lui a beaucoup manqué.
Vous avez tout deviné.
Il a très envie de la voir pendant la nuit, j'ai connu ça.
Voilà, vous avez tout deviné. Votre bébé utilise sa maman comme un doudou. Et plus particulièrement le sein de sa maman, les seins de sa maman comme des doudous. On n'a pas besoin à 10 mois, 11 mois de boire toute la nuit. Donc il faut être un peu plus autoritaire et
doucement autoritaire,
c'est-à-dire faut le laisser pleurer progressivement. C'est excessivement difficile à faire. Quand j'avais pas d'enfants, je le dis avec beaucoup de certitude. Après avoir eu des enfants, j'ai compris ce que c'était. Mais néanmoins, là, c'est pas parce qu'il a faim qu'il mange votre bébé, c'est parce qu'il a envie d'être avec sa maman, comme Caroline l'a très bien dit, et il faut essayer de petit à petit l'habituer à se passer de sa maman la nuit.
Et ça veut dire peut-être aussi, Alous, vous réveiller pour l'éloigner de cette maman et passer un petit peu de temps avec lui pour qu'il comprenne que la nuit on dort peut-être un petit peu éloigné de sa maman et de aussi la bonne odeur du lait qui peut donner aussi envie de manger pendant la nuit si on dort avec sa maman. C'est aussi quelque chose, professeur Tounian.
Et la bonne odeur de la maman aussi qui attire beaucoup. Là, typiquement, je le répète, votre bébé il a pas faim parce que votre question, c'était de savoir qu'est-ce qu'on pourrait lui donner d'autre pour pas qu'il prenne le sein. Rien d'autre. Il a pas faim, il a juste besoin de sa maman. Donc, faites-le vite, parce que sinon, les bébés s'habituent très rapidement et ça peut durer très longtemps.
Voilà, Alous, de la douceur, mais de la conviction avec ce bébé de 10 mois. Très bonne journée pour vous à Bamako, au Mali. On est en ligne avec Bintou, qui est à Paris. Bonjour, Bintou.
Bonjour.
On vous écoute.
Moi, ma question, j'ai 3 enfants. L'aîné, je l'ai allaité pendant 27 mois. Le deuxième, 24. Et le troisième, il a 9 mois. Et je compte pas aller jusqu'au bout. Mais mon petit aîné, il a développé du trouble du comportement à partir de l'âge de 3 ans. Et si je me souviens bien, ma mère, mes tantes, tout le monde me disait que ce n'était pas bon pour l'enfant de lui donner autant de temps l'allaitement, de l'allaiter autant de temps. Et je voudrais savoir s'il y avait une cause, si l'allaitement était nuisible au-delà de 18 mois, c'est ce qu'on me dit.
Professeur Patrick Tounian, sur cette question de Bintou qui est délicate, avec les commentaires de l'entourage qui peuvent faire mal et puis qui peuvent aussi ne pas forcément être exact.
On en parlait tout à l'heure. Quand vous dites trouble du comportement, Bintou, de quoi s'agit-il exactement ?
Il fait beaucoup d'écolalie.
Pardon ?
Beaucoup d'écolalie. J'ai dit mon fils, il fait beaucoup d'écolalie.
Oui. Juste ça ?
Non, il n'y a pas que ça. Il a tendance des fois, comme dans la rue, s'il rate les marches des escaliers, il a tendance à reprendre. Et pour se concentrer, il faut être là.
D'accord. L'écolalie, traduis.
Il faut décrire.
C'est parce qu'il répète plusieurs
répète
fois ce qu'il entend.
Le dernier mot, ce qu'il entend. Quand il n'est pas bien, quand il est un peu stressé ou bien, moi je suis un peu nerveuse, il fait beaucoup d'écolalie.
Alors déjà, je vous rassure, c'est bien évidemment pas l'allaitement prolongé qui est à l'origine de ces troubles du comportement. Je crois qu'il faut que vous alliez voir un pédiatre pour qu'il essaie de voir d'où vient ce trouble du comportement. Mais je rappelle pour le dernier que vous êtes encore en train d'allaiter, qu'après l'âge de 6 mois, il faut leur donner du fer. Donc, n'oubliez pas de donner du fer et regardez si vos autres enfants n'ont pas, et notamment celui dont vous parlez avec des troubles du comportement, n'ont pas une carence en fer.
Ça veut dire faire une prise de sang.
Ça veut dire faire une prise de sang, aller voir votre pédiatre pour qu'il fasse une prise de sang, et s'il est carencé en fer, il faudra le supplémenter. Et votre bébé de 9 mois que vous allaitez encore, vous le supplémentez systématiquement.
Est-ce qu'aujourd'hui, Bintou, vous demandez justement à ce pédiatre ou à la PMI ces supplémentations, ou du moins est-ce que le pédiatre vous demande de donner ces compléments à vos bébés?
Non, pour l'aîné, on m'avait demandé, on avait fait des analyses parce que nous étions au Portugal, je lui donnais le sein. Une pédiatre m'avait dit que, puisque vous lui donnez le sein, il doit être carencé en fer. Mais quand on est revenu en France, après les vacances, notre pédiatre n'avait pas jugé de continuer, vu que moi, je suis drépanocytaire. Pour moi, il faut continuer. Un de mes enfants, le deuxième, il est drépanocytaire. Mais personne ne lui donne du fer, alors qu'on sait que les drépanocytaires sont sujets à ça. Manque de fer. Et je donne le sein.
Et les enfants, et justement, les enfants, vous disiez votre deuxième à la drépanocytose, il est suivi spécifiquement pour cela par un médecin qui est justement à même de le conseiller sur cette pathologie très spéciale?
Non, pour l'instant, on me dit que puisqu'il ne fait pas de crise sévère, il est jeune. Non, on ne donne rien. Des fois, il est fatigué, essoufflé, mais on ne donne rien.
Professeur Patrick Tounian, vous avez quelque chose à ajouter?
Oui, si vous l'avez montré à un médecin, il doit pas avoir hérité de la drépanocytose homozygote, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être malade et donc il nécessite pas de prise en charge particulière, mais donnez-leur du fer.
Du fer à vous, à vos trois enfants. Très bonne journée à vous à Paris. Un Bintou, dernier auditeur que nous prenons en ligne, c'est Ignacio, il est en Côte d'Ivoire dans la ville de Bassam. Bonjour Ignacio.
Bonjour madame.
On vous écoute Ignacio.
En fait, moi, ma question se résume à une petite question. J'ai un enfant de 1 an, 2 mois. J'aimerais savoir quelle doit être son alimentation. Parce que nous sommes ici en Côte d'Ivoire, il est beaucoup habitué à une ce qu'on appelle le cacao. C'est de la pâte de manioc cuite à la vapeur d'un. Il ne sait pas quelle doit être l'alimentation adaptée pour un enfant de 1 an, 2 mois.
Alors, Ignacio, le coq vous a interrompu, mais j'ai bien entendu ce que vous me disiez. Donc, votre fils d'un an et deux mois, il est nourri notamment à base de pâte de manioc. Et vous voudriez savoir si d'autres aliments seraient bons pour lui dans le cadre de cette diversification. Professeur Patrick Tounian.
Bonjour Ignacio. Il boit pas du tout de lait, votre enfant?
Non, il refuse, c'est pas le lait maternel, il refuse tout au sucre, à part le sacarine.
On n'entend pas très bien, il y a du vent. Il faudrait que vous preniez votre téléphone d'une autre façon pour limiter peut-être le cachet avec votre main pour éviter que le vent arrive dessus. Répétez-nous s'il vous plaît, on n'a pas compris. Est-ce que votre bébé boit encore du lait?
Oui, il est toujours allaité.
Il est toujours allaité.
D'accord. Alors s'il est allaité, c'est très bien. Bien sûr, le manioc seul ne suffit pas du tout, du tout. Mais s'il est allaité, ça lui permet d'avoir beaucoup de nutriments. Donc il faut bien évidemment qu'il continue à être allaité. Et parmi les aliments dont il a absolument besoin, c'est le poisson et la viande. Alors je crois qu'il n'aime pas poisson, mais il faut essayer de lui donner un maximum de viande, quelle qu'elle soit possible. Lui donner des produits laitiers. Et avec le sein que lui donne votre femme et le manioc, ça devrait lui suffire. Les aliments indispensables pour les enfants après un an, ce sont la viande, les produits laitiers et idéalement, je ne sais pas s'il y en a en Côte d'Ivoire, le lait de croissance, qui est donc un lait notamment enrichi en fer. Et là, si vous l'alterniez avec le sein, vous pouvez être tranquille. Donc pour résumer, sein, lait de croissance si vous en avez, produits carnés, produits laitiers. Et avec ça, vous êtes tranquille et il pourra continuer à manger du manioc.
Voilà, Ignacio, pour ces conseils du professeur Patrick Tounian. J'ai une question Facebook d'un auditeur, Paul, de Yaoundé au Cameroun. Il dit, mon fils a un an et deux mois, il mange tout ce qu'il me voit manger. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'à partir de quel âge un petit enfant, professeur Tounian, peut manger exactement comme ses parents?
C'est une très bonne question parce que notamment certains industriels font croire qu'il faut continuer à donner des aliments spécifiques après un an. Je ne suis pas d'accord avec ça. Dès un an, un enfant peut manger comme ses parents. À une seule condition, c'est qu'il boive du lait de croissance. Au moins un biberon de lait de croissance, qui est un lait enrichi notamment en fer et en acide gras essentiel, qui est une graisse dont les enfants ont besoin, notamment pour développer leur cerveau. Donc, à partir de l'âge d'un an, on donne la même chose que les parents, sans oublier de donner au moins un biberon de lait de croissance.
Mais à condition, bien évidemment, que ses parents mangent des choses qui sont bonnes pour cet enfant, pour la famille en général, avec des règles de base sur justement une alimentation équilibrée.
Tout à fait, donc une alimentation équilibrée, je le rappelle, j'ai un peu dit juste avant, c'est un produit carné par jour s'il boit du lait de croissance, sinon deux produits carnés par jour, c'est trois produits laitiers par jour, le lait de croissance fait partie de l'un de ces trois produits laitiers, c'est du poisson une à deux fois par semaine, et un fruit ou deux ou légumes par jour, un ou deux fruits ou légumes par jour, un seul fruit ou légumes par jour suffit. Les fameux cinq fruits et légumes que les Français aiment bien ne sont pas du tout adaptés aux enfants, surtout à un an.
C'est des messages publicitaires qu'on entend, des messages d'information, donc qui sont pas forcément pour les tout petits. Pour ces tout petits, justement, certaines maladies ont des liens directs avec la digestion. On pense bien sûr notamment aux fameuses gastro-entérites. Qu'est-ce qu'il faut changer à ce moment-là, professeur Tougnant, dans l'alimentation?
Alors, les gastro-entérites sont extrêmement fréquentes et guérissent absolument toutes seules. Donc, quand un enfant a une gastro-entérite, surtout, on ne change rien. On le réhydrate. On prend des solutés de réhydratation orale qui se vendent en pharmacie, des sachets à dissoudre dans 200 ml d'eau, et on le réhydrate, c'est tout. Pour le reste, on continue le lait habituel et on ne change pas son alimentation tout en gardant du bon sens. C'est évident qu'un enfant qui a une diarrhée, on va pas le gaver de jus d'orange et de melon et de pastèque. Mais ça, je pense qu'on n'a pas besoin de docteur pour le savoir.
Alors, d'autres questions que se posent nos auditeurs. Par exemple, il y a Abdoulaye à Dakar au Sénégal qui nous dit « Il n'est pas conseillé ici de donner de l'eau au bébé pendant ses premiers mois. Est-ce que c'est vrai ?»
Tout à fait. C'est tout à fait vrai. L'eau peut être contaminée, on fait bien sûr attention, mais l'eau peut être contaminée et c'est vraiment un des principaux vecteurs de maladies graves, notamment chez le tout-petit. Pour contourner ça, la meilleure solution reste bien sûr l'allaitement maternel, mais si l'allaitement n'est pas possible, il faut impérativement faire bouillir l'eau qu'on donne à son bébé, notamment avant 6 mois.
Alors, on va tout de suite partir loin de nos studios. On va rejoindre la République centrafricaine.
Priorité santé sur RFI.
On retrouve le professeur Jean Chrysostome Gaudy. Bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes directeur pédiatre au complexe pédiatrique de Bangui. Alors, sur place, vous êtes confronté à des situations très différentes, situations d'urgence, mais pas seulement, professeur Gaudy. Est-ce que la plupart des nouveaux-nés que vous voyez en consultation, ces bébés sont pour la plupart nourris au sein en République centrafricaine ?
Juste après la naissance, on respecte bien ces directives ici, hein, de l'allaitement exclusif. Alors seulement, les études qui ont été faites grâce aux enquêtes ont montré qu'à partir de 3 mois déjà, seul reste en allaitement exclusif 80% environ, et quand on arrive vers 6 mois, c'est à peine 30%, moins de 40% qui sont encore en allaitement exclusif.
Et est-ce que vous avez des données, professeur Gaudy, sur l'état nutritionnel des enfants qui sont pris en charge dans votre complexe pédiatrique de Bangui?
Oui, bien sûr. Nous avons une unité de renutrition thérapeutique intensive ici. Et dans notre unité, nous avons à peu près... de l'ordre de 20% d'enfants qui entrent en unité nutritionnelle pour des cas compliqués, hein, de malnutrition.
Et est-ce que justement, grâce au protocole que vous mettez en place, vous pouvez éviter les séquelles chez ces petits bébés donc qui justement souffrent de dénutrition, professeur Gaudy?
Heureusement que nous avons ces protocoles depuis 2006 environ, où et l'expertise de Action contre la faim, parce que nous sommes ONG.
Nous avons un problème de ligne. On va essayer de vous donner la parole quelques petits mots. On essaye juste, et sinon on vous rappelle, professeur Gaudy, vous nous disiez des protocoles avec le soutien d'Action contre la faim.
Ben, tout à fait, voilà. Et donc, depuis qu'on a ces protocoles, on n'improvise pas. Ces enfants arrivent, on les stabilise très rapidement. Et après, toute la chaîne que nous avons mise dans le pays pour la prise en charge des enfants malnutris nous permettent de les décharger vers les unités de, ambulatoires au bout de 3 semaines à peu près.
Alors là, on parle des bébés en état de dénutrition. Pour ce qui est des bébés bien portants, est-ce qu'il y a aussi des mères qui viennent vous voir au complexe pédiatrique de Bangui pour avoir ce qu'on appellerait des conseils de bon sens, professeur Gaudy?
Très peu. Parce que on a redirigé, selon l'organisation du système de santé, ces mères vers les services de santé maternelle et infantile. Et donc, très peu arrivent au niveau de complexe pédiatrique, qui est un centre où nous avons des enfants malades. Mais quand ils arrivent, généralement, ce sont des erreurs qu'ils ont commises, parce que c'est généralement des mères nourricières qui font du forcing, qui arrivent et qui posent des problèmes de vomissement après les repas qui viennent.
Professeur Gaudy, justement, en général, pour ces mamans qui nous écoutent à Bangui ou ailleurs, vous qui êtes donc directement sur le terrain en Afrique centrale, est-ce que vous auriez des conseils à leur donner à ces mamans et aussi à ces parents en général?
Des conseils, c'est déjà de savoir que nous n'avons pas de directive nationale. On en a pour ceux qui sont malades, mais ceux qui sont bien portants et à qui on devait faire les bonnes pratiques, nous n'avons pas de directive. Par contre, nous avons des professionnels de santé qui savent, à partir des aliments locaux, qu'est-ce qu'il faut à différents âges, qui savent donner des conseils pour une bonne pratique de l'allaitement. Nous avons ceux-là même aussi qui peuvent donner des conseils au-delà de l'âge nourrisson pour la suite, et pour conseiller les aliments à favoriser, comme les produits laitiers, comme les protéines animales, et tout ça, et qui peuvent, à partir aussi de ce que nous avons localement comme fruits, pour compléter ce que on devait donner comme essentiel pour la croissance de l'enfant. Et c'est dans les services de santé maternelle et infantile, c'est ce que nous leur disons et nous leur conseillons d'aller à ce niveau, comme par ailleurs aussi dans la société. Vous savez, il y a beaucoup de barrières qui amènent des interdits sur l'essentiel. Parfois, des produits qui donnent de la protéine animale, on interdit ça aux enfants, les poissons et certains types de produits carnés.
Merci beaucoup, professeur Jean Chrysostome Gaudy, d'avoir répondu aux questions de Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes directeur pédiatre au complexe pédiatrique de Bangui. Très bonne journée à vous.
RFI à Bangui, 99.8 FM.
On l'a bien compris, hein, professeur Tougnon, situation très différente à Bangui et ici en France. Malgré tout, il y a des conseils qui valent pour toutes les régions du monde en matière d'alimentation pédiatrique. Ce sont les règles d'hygiène, conservation et propreté en général au moment de donner à manger à son bébé.
Tout à fait. On rappellera jamais assez que la meilleure façon d'associer propreté, hygiène et bonne nutrition, c'est d'allaiter son bébé. Mais sinon, lorsqu'on donne le biberon, il faut nettoyer les biberons entre les tétés. On n'est pas obligé de les stériliser, mais il faut bien les nettoyer. Ne jamais conserver un peu de lait. L'enfant n'a pas fini son biberon, on jette le biberon. le reste du biberon, le contenu, et on en fabrique un nouveau. Tout ça, c'est très important, bien respecter la chaîne du froid. Et deux petits points importants, on ne donne pas de viande hachée mal cuite avant 3 ans, et on ne donne pas de fromage non pasteurisé avant 3 ans. Alors pour les Français que nous sommes, ne pas manger de bon fromage, c'est assez difficile, mais c'est plus prudent avant 3 ans de ne donner que du fromage à base de lait pasteurisé.
Alors un sujet qui peut paraître complètement incohérent après ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure à Bangui, les exclusions alimentaires injustifiées. On parlait tout à l'heure de ces bébés qui arrivent dans un état tragique dans ce complexe pédiatrique. Et dans certaines régions du monde, eh bien, on prive les enfants d'aliments indispensables pour leur croissance, professeur Tounian.
Alors tout à fait, moi j'ai la chance de travailler avec l'Afrique, notamment bien sûr au niveau de la nutrition. Il n'y a pas que les enfants, il y a aussi des traditions, notamment dans certains pays d'Afrique, les femmes, mais aussi les enfants, mangent une argile, le kaolin, qui apparemment est quasiment addictif et qui est à l'origine d'une carence en fer absolument majeure. Il y a aussi des interdits, mon collègue a parlé de produits carnés, c'est malheureux et je ne sais pas d'où ça vient, parce qu'habituellement, ces coutumes permettait au contraire de mieux alimenter les enfants. Donc il y a des choses un peu curieuses qui arrivent.
Alors dans les questions qu'on n'a pas eu le temps de faire passer, hein, nos auditeurs qui étaient en ligne tout à l'heure, il y en a une, c'est sur ces fameux rythmes, quand est-ce qu'on donne à manger au bébé, le bébé se réveille, les cycles nocturnes, tout ça lié à l'alimentation, c'est vraiment un souci. Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents, souvent des jeunes parents, pour les rassurer?
Pour les rassurer, il faut dire que la nature est très bien faite. Et que le bébé se régule tout seul. Et donc, durant les 2 premiers mois de vie, on le laisse faire. Et puis ensuite, petit à petit, on arrive vers les 4 repas par jour pour le confort de tous.
Et on a bien compris, ne pas forcer ses bébés et avoir toujours le plaisir de manger. Merci beaucoup, professeur.
Merci à vous.
Patrick Tounian, merci d'avoir répondu aux questions des auditeurs. Je rappelle que vous êtes pédiatre-chef du service de nutrition de l'hôpital Trousseau à Paris.
Bulletin de santé.
Et on se retrouve pour ce tour d'horizon des faits marquants de la semaine. Un bulletin de santé que j'ai le plaisir de présenter en votre compagnie. Juliette Rangeval, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Et pour commencer Juliette, 2 cas de fièvre à virus Ebola confirmés dans la ville de Butembo, dans le Nord Kivu. C'est dans l'est de la République démocratique du Congo.
Cette ville de Butembo, qui compte près d'1 million d'habitants, elle est située à 50 kilomètres de Beni, à proximité de la frontière ougandaise. Dans cette région où sévit depuis plus d'un mois une nouvelle épidémie de fièvre Ebola, la 10e qu'est connue la République démocratique du Congo, sur place, on dénombre 88 morts au total et près de 40 personnes infectées.
À Butembo, 195 personnes qui ont eu un contact avec les 2 patients décédés ont été identifiées.
Et ces personnes, les autorités sanitaires souhaiteraient les vacciner d'urgence. Dans cette région de Beni et de Butembo, les nombreux déplacements de population et les problèmes de sécurité complique la lutte contre l'épidémie. Les explications du docteur Njoloklo Tambwet-Baté, l'envoyé par le ministère de la Santé.
Dans le respect du règlement sanitaire international, on ne peut pas empêcher les gens de circuler. Ça, c'est un premier facteur. Et un deuxième, c'est la partie sécuritaire. Nos équipes ne bougent pas comme nous le voulons. Ici, c'est la sécurité qui supplante toute la riposte contre Ebola ici. Aujourd'hui, par exemple, mes équipes ne sont pas allées à Butembo puisqu'il y a la sécurité n'était pas assurée sur la route à Butembo. Soit ils doivent être escortés, alors carrément on ferme la route. Comme aujourd'hui, nous, on vient de fermer la route entre Beni et Butembo. Nos équipes ne peuvent pas aller. Pourtant, aujourd'hui, c'est la 2e journée importante dans la riposte de cette épidémie. Déjà, le travail lui-même d'organiser la riposte contre l'épidémie Ebola, c'est un travail très stressant. Mais à cela, on ajoute la composante de sécurité.
L'envoyé du ministère congolais de la Santé pour lutter contre la maladie Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo, il était joint hier par Léa Lisa Westerhoff.
En Algérie, les autorités affirment que l'épidémie de choléra qui sévit depuis exactement un mois maintenant dans le pays, eh bien, Juliette, cette épidémie serait maîtrisée.
C'est le ministre de la Santé qui l'affirme, mais le dispositif de prévention reste maintenu jusqu'à ne plus avoir aucun cas suspect, sans indiquer le nombre de personnes présentant des symptômes encore hospitalisées. Le dernier bilan officiel fait état de 74 cas confirmés et de décès. Et dans le nord-est du Nigeria, la Maïdougouri, là aussi, une épidémie de choléra. L'infection intestinale aiguë a tué 14 personnes, 400 autres sont hospitalisées. La plupart des malades proviennent de camps de déplacés de la capitale provinciale et l'épidémie s'est étendue à 6 districts de l'état de Borno.
72 heures de grève des médecins internes, ça se passe au Sénégal, à Dakar.
Les revendications portent sur la réforme de leur statut et le versement d'une indemnité. Le 28 août dernier, ils avaient organisé un sit-in devant le ministère de la Santé et de l'Action sociale de Dakar sans obtenir satisfaction.
Alerte sanitaire et examen de santé général mercredi dernier pour les 500 passagers tout juste débarqués à New York en provenance de Dubaï.
Sur ces 500 passagers du vol Emirates examinés mercredi matin, 10 d'entre eux ont été conduits à l'hôpital. Alerte sanitaire et symptômes faisant penser à une grippe. Toux, fièvre, vomissement. Une partie des passagers arrivaient de la Mecque où le virus sévit en ce moment. Les passagers de deux autres vols en provenance d'Europe, de Munich et Paris, ont par ailleurs été examinés cette fois à l'atterrissage à Philadelphie, là encore pour des symptômes grippaux.
L'actualité sanitaire en France, Juliette, avec des dates sur le calendrier social, deux plans annoncés sous peu.
Le président Emmanuel Macron présentera le 13 septembre le plan pauvreté avec à la clé des réformes des aides sociales. Le 18 septembre, ce sera le plan hôpital. Deux plans reportés à cette rentrée alors qu'ils étaient attendus pour cet été.
Et Juliette, autre chantier engagé par le gouvernement, il vise à améliorer l'information sur les médicaments.
Projet lié au rapport remis lundi à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, après la crise de l'an dernier liée au Lévothyrox, ce médicament pour la thyroïde dont le changement de formule avait donné lieu à de multiples signalements d'effets secondaires.
Et c'est dans ce contexte que les autorités sanitaires françaises, en l'occurrence l'Agence du médicament, s'inquiètent des risques liés à un traitement hormonal féminin, l'androcure.
Un médicament qui est prescrit, Caroline, pour traiter l'endométriose ou l'acné en bloquant l'activité des hormones mâles. Ce traitement pourrait, à haute dose et à long terme, multiplier jusqu'à 20 le risque de certaines tumeurs de méningiome chez les femmes. Alors pour l'instant, les autorités sanitaires n'ont pas décidé de retirer l'androcure du marché.
En Italie, enfin, les autorités font marche arrière et rétablissent l'obligation vaccinale pour les jeunes enfants qui sont accueillis en collectivité.
La majorité populiste avait suspendu cette obligation concernant 10 maladies comme le tétanos, la polio ou la rougeole, ce qui avait suscité une vive polémique. L'OMS fixe à 95% le taux de couverture vaccinale de la population nécessaire pour atteindre le seuil d'immunité de groupe pour une maladie.
Merci beaucoup Juliette Rangeval et à bientôt pour un nouveau bulletin de santé. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est tout Samaké au fil de la scène. Victor Hull avec nous. Et lundi, dans Priorité Santé, nous évoquerons la question du suicide, la prévention et la prise en charge après une tentative. Si vous voulez témoigner, si vous avez des questions à poser, appelez-nous, notre numéro 33 84 22 75 75. Et vous pouvez nous réécouter en podcast sur l'application Pure Radio. Bien sûr aussi sur le site rfi.fr, la rubrique émission. On se retrouve lundi.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.